femmes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc vous venez d'entendre l'hymne des femmes qui est le générique que je passe toujours pour cette émission. Mais cette version a été choisie par mon invitée, Cécile Fromageau-Wasserman. Bonjour Cécile.
Bonjour Nadia.
Je suis très heureuse d'avoir des invités et de recevoir Cécile qui a écrit un livre qui s'appelle « Arrête ou je t'en colle une » sur les violences intrafamiliales. Elle est, donc Cécile est professeure des écoles, elle est militante à Oser le féminisme, elle est mère de deux jeunes femmes et elle n'a pas voulu limiter son premier essai à son propre témoignage. Après 4 années de recherche, de lecture, de conférences, de rencontres avec des spécialistes engagés sur la cause des femmes et des enfants, tout ceci a abouti à l'écriture de son livre. Voilà, je n'en dirai pas plus et je vais la laisser parler. Elle va d'abord nous expliquer les raisons qui l'ont poussée à écrire son essai féministe. Voilà.
Merci déjà Nadia de m'inviter sur ce plateau. Alors le vrai titre de l'essai, puisqu'il s'agit d'un essai, l'essai féministe, c'est « Arrête ou je t'en colle une » et non pas « Arrête ou je t'en colle une ».
D'accord.
Voilà, merci en tout cas. Alors les raisons qui m'ont poussée à écrire cet essai féministe sont plurielles. D'abord, j'ai réalisé au fil du temps qu'on ne pouvait se construire réellement sans faire la lumière sur la vérité de son passé, la vérité de son histoire, aussi difficile soit-elle. Ensuite, il y a eu des demandes de la part de mes deux jeunes filles à l'époque, il y a quelques années, qui sont maintenant deux belles jeunes femmes adultes, de connaître un petit peu les raisons qui m'avaient poussée à partir avec elles en urgence quelques années auparavant. Ensuite, je voulais effectivement écrire un livre qui était en partie empreint de mon témoignage et du témoignage également de ce que nous avions vécu toutes les trois en tant qu'emprise, manipulation, violence intrafamiliale. Et puis également, je voulais l'étendre, ne pas le limiter, cet essai, juste à notre témoignage, mais également de l'étendre aux violences qui sont subies en France encore actuellement par les femmes et les enfants, puisque la plupart des victimes des violences intrafamiliales, la grande majorité, sont des femmes et des enfants. Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'il y avait une double injustice que ces victimes subissaient en quelque sorte. Déjà, l'injustice qu'elles subissaient au sein même de leur famille, puisque le huis clos familial est le lieu où ont lieu la plupart de ces violences. Et puis également qu'il y avait une autre injustice qui était le déni judiciaire, qui allait aussi bien des difficultés à porter plainte dans les gendarmeries, les commissariats, etc., à être prises au sérieux, à ce que leurs paroles soient entendues, crues. Il y a tous les jours encore des exemples dramatiques de ces défauts de plainte, de ces disqualifications qui sont faites à leur encontre. Et puis également ensuite, tout l'appareil judiciaire, c'est-à-dire les expertises psychiatriques, les médiations familiales, les magistrats, etc., le manque de formation, enfin, on y reviendra après. Donc, il y a une double injustice que vivent la plupart de ces victimes. Ensuite, je voulais également élargir mon essai en essayant d'expliquer quels étaient les mécanismes psychologiques mis en œuvre dans ces types de violences. Et puis également l'histoire et surtout l'injustice avec des exemples récurrents et puis également des exemples d'aujourd'hui. Et puis j'ai voulu également la grande partie de mon essai, plus de la moitié en fait de mon essai, est consacrée, comme tu l'as dit Nadia, à des expertises de professionnels que j'appelle de vrais professionnels, c'est-à-dire des professionnels engagés sur cette cause des violences intrafamiliales. Il s'agit d'Hélène Romano, qui est psychologue, docteur en psychopathologie, experte des tribunaux, qui est autrice de nombreux ouvrages sur les maltraitances intrafamiliales. Également de Boris Cyrulnik, psychiatre, éthologue, directeur d'enseignement d'éthologie. De Maurice Berger, pédopsychiatre en chef de service en psychiatrie de l'enfance. Luc Frémiot, ex-procureur de la République, avocat général, spécialiste des violences intrafamiliales. D'Édouard Durand, ex-juge des enfants au tribunal de Bobigny. Et depuis janvier 2021, il co-préside la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il est également membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, dont il co-préside la commission violence de genre. Valérie Marseille également, qui est coordinatrice de l'association d'aide aux victimes Solidarité Femmes, qui s'appelait avant SOS Femmes, ici à Aix.
À Marseille. Ah non, à Aix.
Ici à Aix, oui. Marie-Lou Diamantara, qui est une avocate spécialisée en droit privé et droit des femmes à Aix-en-Provence et qui est également très à l'écoute par rapport à Solidarité Femmes, puisqu'elle travaille également en tant que bénévole. Et puis enfin, Patrick Jean, qui est auteur et réalisateur, spécialiste de la question de la domination masculine et qui a bien voulu écrire la préface de ce livre. Voilà.
Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, je pense, de l'état actuel des violences intrafamiliales en France, peut-être donner quelques chiffres voilà, nous donner une idée de l'étendue du problème.
Alors déjà, les violences intrafamiliales, déjà de quoi on parle quand on parle de violences intrafamiliales? Alors déjà, les violences intrafamiliales, ça comprend aussi bien les violences psychologiques, les violences verbales, les violences physiques, les violences sexuelles. En France, actuellement, on considère qu'une femme sur 10 se déclare victime de violences conjugales. Autant de femmes détruites, première cause de mortalité et d'invalidité chez les femmes de 16 à 44 ans en Europe. Ensuite, donc, les violences intrafamiliales concerneraient environ 2 millions de femmes en France. Depuis 10 ans, 50% de l'ensemble des homicides de femmes en France sont commis par les partenaires ou les ex-partenaires, donc les compagnons ou les ex-compagnons. Ensuite, entre 2010 et 2015, officiellement, chaque année en France, il y a environ 216 000 femmes âgées entre 18 et 75 ans qui auraient été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime, c'est-à-dire mari, concubin, paxé ou petit ami. Malheureusement, quand on voit tous ces chiffres qui sont déjà terribles, abominables, il s'agit là d'une estimation minimale, puisque ces enquêtes, en fait, n'interrogent que les personnes qui vivent en ménage ordinaire. Elles ne permettent donc pas d'enregistrer les violences qui sont subies par ces personnes qui vivent en collectivité, comme les foyers, les centres d'hébergement ou les prisons, ou les personnes qui vivent sans domicile fixe. Ensuite, ce chiffre, il ne couvre que les violences physiques et sexuelles, et il ne tient donc pas compte de l'ensemble des violences subies au sein du couple. Toutes les autres violences
psychologiques,
c'est-à-dire ouais. effectivement psychologiques, verbales, économiques ou administratives. Enfin, l'évolution d'une année sur l'autre reflète l'ampleur de ces violences, puisqu'en fait, d'une année sur l'autre, malheureusement, ce chiffre est relativement stable. Comment est-ce qu'on peut mesurer la violence ? Alors, il y a un outil qui s'appelle le violentomètre. Et cet outil, en fait, il est utile notamment pour voir un petit peu l'état, j'allais dire, de... du couple ou de la relation en tout cas, c'est un peu, il est représenté un petit peu comme une règle divisée en séparée en trois parties. La première partie s'appelle profit, ta relation est saine, avec plusieurs exemples qui sont donnés. Par exemple, ta relation est saine quand ton compagnon a confiance en toi, quand il est content, quand tu te sens épanoui, etc. La deuxième partie s'appelle vigilance, dit stop. Il y a de la violence quand il, donc le compagnon ou l'ex-compagnon, te manipule, t'isole de ta famille, de tes proches, rabaisse tes opinions, tes projets, tes propos, etc. Enfin, la dernière partie, protège-toi, demande de l'aide, tu es en danger quand il. Alors là, ça va aussi bien de l'humiliation, le fait de traiter l'autre d'hystérique, de folle, etc., quand il pète les plombs, quand il menace de se suicider, quand il fait du chantage, par exemple, quand il t'oblige à avoir des relations sexuelles ou quand il te pousse, te tire, te gifle, etc., etc. Cet outil, il a été créé en Amérique latine, le violentomètre, et il a surtout été repris et adapté donc assez récemment, en 2018, donc il y a à peu près 4 ans, par l'Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec l'Observatoire parisien de lutte contre les violences faites aux femmes et l'association En avant toutes. Ce violentomètre, en quelque sorte, c'est un outil d'auto-évaluation avec 23 questions assez rapides ou 23 schémas assez rapides, je vous en ai lu quelques-uns. Il mesure donc si la relation elle est saine ou si elle est en danger ou au contraire, s'il faut vraiment partir. Et le souci, en fait, dans les violences intrafamiliales, quand on parle des violences intrafamiliales, c'est que on est quand même dans un huis clos, c'est-à-dire qu'en fait, les violences intrafamiliales, ce qui fait leur particularité, c'est que contrairement aux autres violences, généralement, il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins parce que ça se passe à la maison, en huis clos, et à part les victimes concernées, c'est-à-dire les femmes et les enfants, difficile de trouver les preuves. Or, les preuves, elles sont quasiment obligatoires ensuite pour pouvoir déposer plainte et avoir une possibilité.
Oui, ce sont les victimes qui doivent prouver qu'elles ont subi des violences.
Exactement. Oui. Et le souci également, c'est que, étant donné que c'est en huis clos, bah justement, il y a généralement pas de témoins, en fait. Et puis également, il est utile parce que très souvent, en fait, quand la relation est saine, c'est-à-dire dans la première partie de ce violentomètre, la manière en fait dont se conduit la relation de couple est à peu près identique à un couple sain où tout va bien, où il y a peut-être des disputes, etc., mais où il y a plutôt une bonne entente, un respect mutuel. Ensuite, quand on arrive dans le violentomètre à la partie orange, c'est là où il commence à y avoir des difficultés. Et il commence à y avoir en fait une prise de pouvoir, une manipulation, une emprise sur la victime, sur les victimes qui commencent à se mettre en place. Et c'est là en fait où il serait temps de partir. Le gros problème, en fait, c'est que plus la manipulation est installée dans la relation, plus il y a d'emprise, plus il est difficile, justement, à cette période-là de partir. Et c'est pour ça que ça aboutit à cette troisième partie du violentomètre, qui est donc, stop, en fait, tu es vraiment en danger. Et là, l'aide est nécessaire. L'aide est d'autant plus nécessaire que la plupart des victimes de violences intrafamiliales s'en sortent difficilement seules, en fait, puisque le pas pour partir, il faut souvent un déclic, en fait. Alors, le déclic, ça peut être les enfants, c'est souvent le cas quand on est femme et mère. Ça peut être un coup en trop où là, effectivement, on se sent réellement en danger. Ça peut être surtout aussi l'aide extérieure, en fait. Ça peut être les associations, ça peut être les proches, etc. Là, on en reviendra également quand on parlera peut-être des mécanismes psychologiques.
Oui. Parce que le problème, je pense, c'est... Enfin, pour moi, un des gros problèmes aussi, c'est que, je pense, de très nombreuses femmes subissent des violences, notamment psychologiques, et n'ont pas conscience de ces violences aussi, quoi. Donc, c'est pas évident, je pense, pour... nombreuses femmes, même si il y a des enquêtes, d'ailleurs je ne sais pas comment elles les font, mais je pense que si on fait des enquêtes et qu'on demande à des femmes « subissez-vous des violences ?», je pense que souvent des femmes subissent des violences, mais qu'elles n'en ont pas forcément conscience.
Alors effectivement, donc, tu as raison, puisque d'après dans l'essai, je nomme plusieurs enquêtes, justement, je confronte plusieurs enquêtes qui montreraient qu'une femme sur 10 en France subirait des violences et donc des violences psychologiques. Parce qu'il faut savoir que sur les 2 millions de femmes qui subissent des violences d'après les enquêtes, et ce chiffre est minimal, ce sont des violences dans l'ensemble, c'est-à-dire aussi bien des violences psychologiques que des violences verbales, physiques, sexuelles, économiques et administratives. Mais en fait, sur ces femmes qui subissent des violences, il y en a une sur 10, à peu près 228 000 à peu près en France chaque année, et c'est un chiffre malheureusement assez énorme en fait, qui subissent des violences physiques. Ça veut dire que toutes les autres subissent des violences psychologiques. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme subit des violences physiques et sexuelles, nécessairement il y a également une emprise, une manipulation et donc des violences verbales et psychologiques. Ouais. Par contre, comme tu le disais, toutes les femmes qui subissent des violences psychologiques et verbales, alors elles n'en ont d'autant moins conscience. Qu'en fait, petit à petit, ça s'installe. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où la brèche s'ouvre, à partir du moment où la faille est ouverte et en fait où on l'admet une fois, pourquoi pas ne l'admettre deux fois, trois fois, quatre fois. Alors, oui. Bien entendu, je ne suis surtout pas en train de culpabiliser les victimes.
Non, puisque, pas du tout.
Comme le dit très, très bien Oser le féminisme, la honte doit changer
bien
de
sûr.
Camp.
Mais je pense que le coupable, c'est la culture patriarcale que nous subissons toutes.
Alors, à la base, de toute façon, effectivement, on n'en serait pas là s'il n'y avait pas une culture patriarcale, c'est-à-dire un poids donné depuis pas la nuit des temps, mais quasiment, au père de la nation, comme le disait très très bien Patrick Jean dans La Loi des Pères, au père de la nation, au père de l'Église, au père dans la famille, au patron, au mari, etc. Donc, bien entendu. Et puis également au masculinisme, c'est-à-dire à la prétendue, je dis bien, supériorité des hommes sur les femmes, en fait, qui se retrouve à tous les niveaux, aussi bien au niveau du couple, donc au sein même de la famille, mais également au niveau du travail. Il suffit de voir l'écart de salaire énorme pour le même travail, le même poste, les mêmes diplômes et les mêmes compétences, et à tous les niveaux. Et le gros problème, en fait, c'est que justement, ce système qui est tellement bien ancré dans notre culture, dans notre société, mais pas que dans la nôtre, malheureusement, dans
oui,
la
partout,
plupart des
c'est
sociétés
universel.
Du monde. Voilà, il n'y a pas une société dans le monde qui ne soit pas sexiste, dans ce sens-là, en tout cas, envers les femmes. C'est que le gros problème, en fait, c'est qu'elle s'est tellement immiscée dans notre inconscient,
c'est ça,
qu'en fait, on vit avec, et elle en devient transparent, et que c'est quelque chose, malheureusement, qui nous semble normal, qui nous semble naturel, alors qu'en fait, ça ne l'est absolument pas.
Voilà, alors je te propose de faire une deuxième pause musicale avec la chanson « I Will Survive », qui est une chanson bien connue, dont les paroles sont intéressantes, je trouve. Mais c'est une version jazz. J'espère qu'elle vous plaira.
At first, I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent oh so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid luck. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I crumble? Did you think I lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give. And I'll survive, I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Sorry for myself, I used to cry. But now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that chain of little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome. You the one who tried to break me with goodbye. Did you think I crumble, crumble? Did you think I lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll see a life. Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give. And I'll survive. I will survive.
Révolution sera féministe avec Cécile Fromageau. Donc, tu vas nous parler maintenant des mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans le contexte des violences intrafamiliales. Pourquoi devient-on victime ? Pourquoi est-ce si difficile de partir ?
Alors déjà, pourquoi devient-on victime et pourquoi est-ce si difficile de partir ? Alors déjà, pourquoi devient-on victime ? Déjà, je pense que Toutes les victimes, femmes et enfants, peuvent à un moment donné de leur vie avoir des failles avant d'être victimes. C'est-à-dire que tous dans nos vies, on a des moments plus difficiles que d'autres. Ça peut être un décès, une séparation, une perte d'emploi, une perte de confiance qui engendre une perte de confiance en soi, ou même tous ces événements qui arrivent ensemble et qui font qu'à un moment donné, la faille, elle grossit, quoi. Donc il y a effectivement à l'origine une faille, en tout cas la plupart des recherches que j'ai pu faire et puis des experts que j'ai, les professionnels que j'ai rencontrés m'ont dit qu'effectivement, que ce soit Marie-Lou Diamantara ou Valérie Marseille, m'ont dit qu'effectivement toutes les femmes qu'elles rencontraient étaient essentiellement des femmes qui à un moment donné avaient eu une faille dans leur vie, aussi forte soient-elles ces femmes, puisqu'en fait les violences touche des femmes de tout âge, tout milieu, tout niveau professionnel, etc., toutes conditions. Donc il y a une faille à un moment donné et l'agresseur arrive dans cette faille et en fait s'installe dans cette faille. Et le problème, c'est qu'ensuite s'installe petit à petit une espèce de un climat en fait que que Léonore Walker, donc la psychologue Léonore Walker, il y a une quarantaine d'années de ça, en 1979, avait très bien décrit en décrivant le cycle de la violence conjugale. Elle le décrit comme une succession de comportements qui, une fois qu'ils sont installés, en fait, sont récurrents. En fait. Et selon elle, ce processus, il se déroule en quatre phases. Alors la première phase, c'est un climat de tension. Donc il y a des paroles, des attitudes de la part de l'agresseur qui installent un climat de tension à la maison, un climat de tension envers la et les victimes. La conjointe ou la compagne, du coup, s'installe dans un climat où elle doute d'elle-même, où elle a peur de déplaire, de faire des erreurs. Donc elle adapte en quelque sorte son comportement à l'autre pour éviter justement qu'il passe par ces périodes de tension. Elle devient anxieuse et puis surtout paralysée. Petit à petit, en fait, s'installe cette phase. Ensuite, il y a une phase numéro 2 qui est une phase de crise où le conjoint, en fait, et le compagnon, comme il n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés, attendus, il pose un acte. Alors cet acte, au départ, en tout cas le plus souvent, il est plutôt de violence psychologique, verbale. Il éclate, il peut être également physique, mais c'est vrai qu'au départ, c'est plutôt psychologique, verbal, de l'humiliation. Et puis là, la compagne, en fait, se sent humiliée, désespérée, outragée, en fait, et elle passe de la colère à la détresse. Et puis ensuite, il y a la phase suivante, qui est la phase numéro 3, la phase de la justification. C'est-à-dire qu'en fait, le compagnon va invalider et va minimiser son comportement pour en fait trouver des excuses en quelque sorte, des justifications pour justifier qu'il a effectivement, qu'il a éclaté, qu'il a pété les plombs. Il va donc se déresponsabiliser en disant que il était stressé, etc. Si tu m'avais écouté, enfin bref. Et du coup, en fait, le gros problème à cette phase-là, cette phase 3 de justification, c'est qu'on passe de au lieu que le compagnon, en quelque sorte, qui est responsable, reste responsable, en fait, il va se déresponsabiliser. Il y a un report de la responsabilité de la violence sur la compagne, donc qui est la victime, en quelque sorte, donc qui, elle, déjà qu'elle doutait d'elle-même, va encore plus douter d'elle-même. Elle va se dire, finalement, il a peut-être raison, en fait, c'est peut-être moi qui est mal compris, c'est peut-être moi qui ai mal fait, peut-être que j'exagère en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, elle va donner raison à son compagnon et penser que c'est elle la fautive en quelque sorte. Et plus ce cycle se répète, plus la femme, en fait, elle se perçoit petit à petit comme complètement incompétente. Et finalement, elle porte la responsabilité de la violence du compagnon. Puis en fait, la phase 4, qui est appelée lune de miel, alors ça pourrait faire rêver, mais ça ne l'est pas du tout, c'est finalement le compagnon qui revient en s'excusant, en exprimant des regrets, en promettant bien entendu de ne pas recommencer. Il devient attentionné, affectueux, etc., etc. Et la compagne, finalement, garde espoir en se disant, finalement, il a été violent verbalement, physiquement, sexuellement, il a pété un câble, effectivement, il s'est justifié, il m'a responsabilisé, mais quand même, il regrette. Donc finalement, il peut changer et finalement, maintenant, il est agréable. Et le gros problème, il est là. C'est-à-dire que la plupart des victimes, quand elles essayent de partir en quelque sorte, quand elles trouvent le courage de partir et qu'elles sont reçues par des associations ou par des proches, etc., elles nient rarement en bloc. C'est-à-dire qu'elles a tendance à minimiser, à dire que finalement, ce n'est pas très grave, etc. Et c'est là où les associations souvent le savent. Ben, faut être patient, faut être à l'écoute parce qu'il y a souvent des allers-retours. Et parce qu'elles savent très bien qu'en fait, là, c'est une des périodes nécessaires, en fait, un des états nécessaires pour la victime que de se dire, bon, ben, finalement, il pourra changer.
C'est-à-dire un état nécessaire, pardon, j'interviens, en fait, est-ce que tu m'expliques, t'expliques un peu plus
L'écoutante, en quelque sorte, la personne qui va recevoir la victime, le plus souvent dans une association par exemple, sait très bien que très souvent, en fait, la victime a tendance à minimiser en fait, ce qu'elle subit, parce que c'est tellement terrible bien en sûr. Fait. Qu'elle a tendance à minimiser. Donc, c'est l'écoutante qui, petit à petit, va lui faire prendre conscience que ce qu'elle vit est juste intolérable, en fait. Mm-hmm. Et que ce soit des violences verbales, physiques, sexuelles, etc., même une gifle, c'est intolérable. Et la première, ça doit être la dernière. Donc, elle sait très bien que, de toute façon, si elle y va trop dedans, en quelque sorte, la victime risque fort de faire machine arrière. Donc en fait, il faut la mettre en confiance petit à petit.
La victime a un attachement certainement affectif énormissime malgré
alors,
tout ça.
Alors il y a très souvent effectivement une dépendance affective très très forte. Ouais.
Mm-hmm. Après donc, il peut y avoir aussi les enfants et tout ça, le fait d'avoir des enfants avec cet homme-là.
Tout à fait. Ben en fait, quelque part, se dire que son rêve d'avoir créé quelque chose, d'avoir essayé de construire quelque chose, s'arrête quoi. Donc il y a cette faille, effectivement, il y a donc ces cycles de la violence. Il y a également un effet de sidération, c'est-à-dire qu'une femme qui est frappée, qui est violée, qui est battue ou qui est humiliée, tout simplement. Enfin, pas tout simplement, c'est terrible en fait, parce que les violences psychologiques, verbales, elles ne se voient pas, mais elles restent là une grande partie de sa vie, quoi. Donc, souvent, elle rentre dans un effet de sidération, elle est sidérée par ce qu'elle vit, et en fait, pour arriver à continuer à vivre, quelque part, il faut le loger dans une partie du cerveau. Où souvent ça va être un peu dans l'oubli, d'où le déni en quelque sorte qui
comme mécanisme
qui
de survie.
Comme un mécanisme de survie, exactement. Puis il y a une confusion aussi, comme j'expliquais là, une confusion, mais finalement, bon, il n'est pas si mal, il est sympa, bon, il m'a quand même offert un bouquet de fleurs, il fait bien la cuisine, il m'offre le resto, bon, finalement, voilà. Il y a bien entendu, comme tu le disais, une dépendance affective qui est très très forte. Et puis,
surtout pour les femmes, si je me permets, je pense que nous sommes assez éduquées à l'amour, l'amour romantique. Donc, une femme est éduquée à se dire que la valeur la plus forte pour elle, c'est d'aimer, d'être aimée, etc. Tandis que les hommes n'ont pas du tout cette éducation-là. C'est pas la première de leur valeur. Et je pense que ça fait de nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus en dépendance affective, nous recherchons beaucoup plus cet amour-là.
Alors,
que
des proies
l'homme,
plus facile,
voilà.
Oui.
Nous sommes toutes comme. Ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit, pardon, c'est. Tu as dit. Devient-on victime et souvent la femme qui devient victime, elle a des failles. Mais je pense que c'est très facile d'avoir des failles et je pense que de très très nombreuses femmes ont des failles parce que. Dans la culture dans laquelle on vit, dans tous les pays du monde, on a, je pense que presque toutes ont vécu des violences, au moins psychologiques, même subtiles, même pas très fortes, mais de la part de leur père, etc., qui font que, c'est facile d'avoir une faille et que le fait d'avoir déjà vécu des violences, ne serait-ce que psychologiques, fait de nous, nous donne un seuil de tolérance très très fort, quoi, pour
Alors, je vais rebondir et répondre à ce que tu as dit aux différents points, parce qu'il y a plein de choses.
Oui.
Merci en tout cas. Alors déjà, effectivement, bien sûr, c'est culturel. Sauf que tu as parlé de l'amour à un moment donné. Oui. Je pense que l'amour, c'est universel, c'est une valeur universelle, il me semble.
Oui, j'espère, je veux y croire, mais je dis seulement qu'on n'est pas éduqué à la même chose, hommes et femmes.
Je pense que l'amour, c'est, il me semble en tout cas, effectivement une valeur universelle, et que l'amour est aussi important en fait pour une femme que pour un homme.
D'accord.
Seulement, à la base, effectivement...
Il faudrait être égaux et égales pour vraiment vivre un vrai bon amour, c'est ce que je veux dire.
Bien sûr, seulement, effectivement, culturellement, familialement, éducativement, effectivement, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, au niveau éducatif en tout cas, les femmes sont plus, effectivement, dans le care, comme on dit, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, etc., supporter, etc., voilà. etc. Et alors que les hommes sont... éduqués à plus de retenue, alors que sans doute, en fait, eux aussi ont des failles, ont des blessures, et eux aussi aimeraient bien pouvoir les exprimer. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout éduqué comme ça au niveau général, et pas juste dans une famille, au niveau sociétal, on n'est pas du tout... alors, ça commence à changer fort heureusement, mais combien de fois on a entendu, effectivement, petite, une femme, en gros, courbe les chines et puis vas-y, c'est pas si grave que ça, alors qu'un homme, t'es pas un homme si tu pleures, quoi. Et le gros souci, c'est effectivement que avant d'arriver à s'enlever ça de la tête, il faut souvent des années. Ensuite, tu as parlé de failles par rapport à ce que j'avais dit. Je pense que les femmes, comme les hommes, ont des failles. On a toutes et tous des failles, des blocages à un moment donné de notre vie, des difficultés financières, des difficultés physiques, de maladies, des difficultés professionnelles, personnelles, etc. On a toutes et toutes des failles. Le gros problème, c'est que si une femme, à un moment donné de sa vie, va rencontrer quelqu'un qui est quelque peu manipulateur, pervers, narcissique, etc., il va vite s'engranger dans cette faille. C'est ça le gros souci, effectivement. Ensuite, je voulais parler effectivement par rapport, parce qu'on parle beaucoup par rapport aux femmes, mais par rapport aux enfants, les femmes déjà, elles ont la possibilité de pouvoir en parler entre elles, même si c'est terrible, si c'est horrible, elles ont la possibilité de parler entre elles et la possibilité de manifester, de tenir des pancartes, de pouvoir être aidés, d'aller dans des associations, etc. Les enfants, ils n'ont pas ça. Les enfants, comme le disait Patrick Jean, ils ne se baladent pas avec des pancartes, ils ne manifestent pas en disant ce qu'ils vivent. Et il y a un conflit de loyauté qui est énorme chez l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui est victime de violences intrafamiliales, le plus souvent donc par son père ou par son... en tout cas le compagnon de sa mère en quelque sorte, le gros problème, il se passe quoi en fait dans sa tête? Il se passe que d'un côté, il a un homme qui, soi-disant, est son père ou le compagnon de sa mère, ou peu importe en tout cas, qui donc a un statut de père, et de l'autre côté, un homme qui rabaisse sa mère, donc la figure maternelle en fait, donc la figure qui va lui permettre de se construire, et surtout si c'est une femme, c'est assez terrible. Ou si c'est un homme, le risque c'est qu'il devienne comme ça, il reproduise, ou alors qu'au contraire, il ait peur justement de devenir comme ça. Donc il y a un conflit de loyauté énorme entre d'un côté, mon père, en quelque sorte, je dois l'aimer parce que ça doit être comme ça. Et de l'autre côté, excusez-moi ce terme trivial, mais c'est un salaud. Et ça, c'est compliqué à vivre au niveau psychologique. C'est assez terrible. Ensuite, il y a bien entendu l'emprise, la manipulation, dont il est très, très difficile en fait à s'en sortir. Les mécanismes psychologiques, s'il reste quelques minutes...
Ah oui, il reste.
Donc ça, on en a parlé. Pourquoi devient-on victime? Et surtout, pourquoi il est si difficile de partir? Alors, d'abord, il est difficile de partir par rapport à tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il y a une emprise, il y a une manipulation, il y a une dépendance affective, il y a une incapacité quelquefois aussi à partir parce que financière, tout un tas de choses. Il y a une confusion, un effet sidération, un déni, tout un tas de mécanismes qui se mettent en place qui font que c'est compliqué de partir. Ensuite, partir, ok, c'est très bien, mais quand? Quand est-ce qu'on part? On part après le premier coup? très bien. Et comment on fait ? Est-ce qu'on a espoir ? Est-ce qu'on n'a pas espoir ? Enfin, c'est compliqué. Ensuite, comment on part ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va dans un foyer d'hébergement ? Est-ce que l'homme qui est violent, ben, est mis à la porte ? C'est rarement le cas quand même en France. Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va chez ses amis ? Est-ce qu'on a un endroit où se protéger ? Donc, c'est extrêmement compliqué et il faut souvent beaucoup d'années, beaucoup d'allers-retours. En moyenne, les allers-retours pour une femme victime de violence, ils sont autour de 4-5. Ça veut dire quoi, des allers-retours ? Ça veut dire que la femme victime de violence, qu'elle soit seule ou avec des enfants, elle va souvent faire plusieurs allers-retours entre ben, « je m'en vais et je reviens finalement, je m'en vais et je reviens ». Parce que c'est très très compliqué en fait.
Bien sûr.
C'est très compliqué. Et puis il y a bien sûr cette culpabilité qui s'est inscrit, comme tu le disais, pas dans les gènes, mais presque, en tout cas dans notre culture, cette culpabilité, en fait, qui gangrène, en quelque sorte. Il y a les mécanismes pervers de l'agresseur. Bah, finalement, bah, c'est toi la fautive. Et puis, on va vite trouver des copains, des copines pour faire des attestations, pour te couper du monde, etc. Donc, et reporter cette responsabilité. Et puis,
ah oui, les agresseurs font ça aussi, ça m'interpelle que tu parles un peu de ça, qui vont jusqu'à la culpabilité. Mais du fait qu'ils peuvent aller jusqu'à faire des attestations.
Ah ben ça c'est malheureusement, enfin on en reparlera tout à l'heure quand on parlera un peu plus si tu veux du fonctionnement de la justice.
Ça m'interpelle. Mais oui, on en parlera d'accord à ce moment-là.
Rapidement, malheureusement quand on voit comment ça se passe, les procès, en tout cas les dossiers de violence intrafamiliale en France, c'est quand même terrible. Et les attestations, les fausses attestations des bons copains, des copines, etc., contre la femme qui est victime, sont légion et la desservent, quoi. Ensuite, il y a bien sûr le chantage affectif, c'est-à-dire « oui, mais si tu me quittes, qu'est-ce que je vais faire sans toi ? Mais c'est pas possible, mais reviens, donne-moi encore une chance, etc. etc. » Mais ça fait 10 fois que je te donne une chance. Qu'est-ce que je vais faire sans toi ? Comment je vais pouvoir vivre, etc. Mais je t'aime, je n'aime que toi. Si tu pars, je vais me suicider. Si tu pars, comment ça va se passer pour les enfants, etc. Enfin, voilà. Donc, tout ce chantage affectif, où là, comme tu le disais, comme ça fait presque partie de notre ADN de femme, en quelque sorte, en tout cas de notre éducation, c'est vraiment compliqué à mettre de côté justement ces émotions-là. Ensuite, et les proches. Les proches, il faut savoir quand même que la plupart des femmes victimes de violences intrafamiliales, et les enfants également, tout le monde sait. La plupart savent.
C'est-à-dire c'est ça qui est terrible.
Soit en fait, ils font le jeu de l'autruche, on en reviendra tout à l'heure. Mais en gros, tout le monde savait. Je vais citer quand même deux procès qui ont fait la une des journaux et tant mieux. Le premier, en 2012, avec Alexandra Lange. Donc, c'est là où on a parlé de Luc Frémiot. Ça a donné lieu à un film qui s'appelle « L'emprise ». Et le deuxième de Jacqueline Sauvage. Ce sont des femmes quand même qui pendant, je ne sais plus, mais je dirais 30, 40, je crois 47 ans pour la deuxième, ont subi, elles et leurs enfants, des violences intrafamiliales. Tout le monde savait. C'est-à-dire que les services sociaux savaient, c'est-à-dire que l'école savait, c'est-à-dire que les voisins, les voisines savaient, le boulanger savait, enfin tout le monde savait. Et en fait, personne n'a rien fait. Pourquoi ? Parce que c'est du domaine privé, parce qu'on ne va quand même pas s'occuper de la bonne femme et des enfants qui vivent l'enfer. C'est leur problème, finalement. Et c'est ça qui est terrible, en fait, aussi. C'est-à-dire que les proches, la plupart du temps, soit font effectivement l'autruche, soit n'osent pas, soit ne savent pas, probablement aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a un vrai déni aussi à ce niveau-là. Ensuite, les plaintes. Partir, c'est bien beau. Bon, d'accord, mais porter plainte, il faut savoir quand même qu'en France, il y a sur 100 femmes, par exemple, qui sont victimes de violences intrafamiliales, avec ou sans des enfants, il y a à peu près 15% de femmes qui portent plainte. Ce chiffre a été augmenté pendant le confinement, puisqu'il y a eu une recrudescence de violences et surtout de plaintes. Donc, il était, on va dire, entre 12 et 15% des femmes, à peu près, en victime de violences intrafamiliales.
Qui osait porter plainte. Enfin, qui arrive à porter plainte.
Qui arrive à pousser la porte d'un commissariat, à faire face à tout un tas de... de colibés, etc. Enfin, horrible. Je ne sais pas si tu as entendu, mais ce matin, en venant ici au studio, j'ai entendu justement une émission où un ministre, en fait, disait que je ne citerai pas, disait qu'un gendarme, en fait, avait traité de pute une femme qui venait pour porter plainte contre des violences intrafamiliales. Enfin, on en est là, quoi. Oui. C'est quand même assez terrible. Alors, ça,
oui,
c'est
porter plainte,
extrême.
Effectivement, devant des... Non, mais je pense que voilà, des gendarmes,
malheureusement,
terriblement... je dirais pas seulement qu'ils ne sont pas formés, mais qu'ils sont carrément... tout à fait.
Ils sont misogynes. Donc là, déjà, les plaintes... OK, ensuite, il faut savoir qu'en France, les plaintes, il y en a très peu qui obtiennent gain de cause. On reviendra aussi par rapport à ça tout à l'heure. Le fonctionnement de la justice aussi... fait que partir, mais si c'est pour me retrouver sans mes enfants, et en plus que l'agresseur, il en est la garde, puisque malheureusement, ça se passe souvent.
Non, mais je pense, pardon, je t'interromps, mais je voulais dire, dans le timing qu'on a prévu pour pouvoir ensuite envisager les solutions, là, c'est bien de parler justement de ça, de mettre les pieds dans le plat par rapport à la justice ou l'injustice, parce que j'ai vu que dans le sommaire, le chapitre, tu mets entre parenthèses,
injustice.
C'est ça. Donc de parler un peu de la prise en charge ou plutôt non prise en charge des victimes de violences par la justice française. Grave sujet, très douloureux pour nous toutes, mais c'est un chapitre qui m'a beaucoup j'avais vraiment envie de t'entendre parler sur ça.
Alors, donc déjà, je vais reprendre quelques chiffres par rapport à la non-prise en charge des victimes de violences intrafamiliales par la justice française. Je me répéterai peut-être un petit peu. On va dire qu'en gros, entre 12 et 15% des femmes victimes de violences intrafamiliales portent plainte. Sur ces 12 à 15% des femmes victimes de violences intrafamiliales qui portent plainte, au niveau des viols, on en est à peu près à 1%. De reconnaissance, de condamnation, etc. Il faut voir, en plus, les condamnations, c'est quand même pas terrible.
Ouais. Ce chiffre, je l'ai bien en tête et il descend
terrible.
Pas. Enfin,
Tout. Non. 1% des femmes, des 14% qui ont déjà réussi à avoir le courage d'y aller, quoi. Ensuite, il y a à peu près entre 10 et 15% des femmes qui obtiennent gain de cause pour des violences autres que des viols. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, on a 100 femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales, avec ou sans des enfants. On en a à peu près 15% qui arrivent, qui trouvent le courage ou qui sont accompagnées, qui osent franchir la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie, etc. Sur ces 15%, il y en a 1% qui va réussir à obtenir gain de cause, même minime, au niveau donc pour une plainte d'un viol. Et puis, on a à peu près 10 à 15% de ces femmes qui obtiennent gain de cause, en tout cas où l'agresseur est reconnu responsable, le plus souvent au tribunal correctionnel, pour des faits de violence autres que sexuelles. Voilà.
Donc, en fait, l'impunité est la plus forte concerne les violences sexuelles, mais l'impunité est forte pour toutes les violences.
Oui. Alors, pourtant, il y a des exemples quand même à suivre. Alors, on viendra tout à l'heure quand je parlerai des solutions. Il y a bien sûr Édouard Durand, qui est quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là. Il y a Luc Frémiot et puis il y a Hélène Romano. Alors, les deux premiers, Édouard Durand et Luc Frémiot, sont plus, j'allais dire, étaient plus engagés, en tout cas pour Luc Frémiot, au niveau des femmes. Mais bien entendu, quand on dit femmes, on dit aussi enfants. Et Hélène Romano, elle, beaucoup plus envers les femmes. Et je voulais vous lire quelque chose qu'a écrit Hélène Romano, si je le retrouve, parce que je trouve que c'est exactement ça, en fait, qu'elle... qui symbolise un petit peu l'omerta qu'il peut y avoir en quelque sorte à ce niveau-là. Sur la page d'accueil de son site internet, Hélène Romano précise « Ma parole libre et mon engagement professionnel dérangent ceux qui préféreraient que la défense des enfants maltraités, la prise en charge des personnes de vie fracassées par des traumatismes, l'accompagnement des victimes restent des supports de communication bien plus qu'une réalité. » Elle ajoute « Le silence tue la vérité et détruit davantage ceux qui ne peuvent se libérer eux-mêmes de leur souffrance. La protection de l'enfance en ce début du XXIe siècle est marquée par une régression majeure. L'évaluation du témoignage des enfants victimes de maltraitance conclut de plus en plus souvent au déni de la réalité de ces violences. Et ça, c'est quand même assez terrible. C'est d'autant plus terrible qu'en France, il n'y a aucun lien qui est fait entre les différentes juridictions. J'entends par juridiction le JAF, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le tribunal correctionnel. Concrètement, dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui porte plainte pour violence intrafamiliale, pour elle, pour se défendre, elle et ses enfants, elle va porter plainte et sa plainte, si elle est retenue, si elle fait partie des rares élus...
Oui, donc on a vu que déjà, voilà.
Voilà, si elle fait partie des rares élus, elle va être reconnue et traitée au tribunal correctionnel. Si elle a beaucoup de chance... elle va être reconnue en tant que victime, mais il y en a quand même très très peu. Si malheureusement elle tombe, comme c'est la grande majorité des cas, elle n'est même pas reconnue en tant que victime. Et ensuite, ça passe ou en même temps, le dossier pour le divorce, la séparation, la garde des enfants passe au JAF, au juge aux affaires familiales et au juge d'enfants par rapport à la garde. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, il n'y a aucun lien qui est fait entre... Par exemple, un homme qui a été condamné pour violence intrafamiliale, qui est reconnu coupable par la justice, et la garde des enfants, la pension alimentaire, le JAF, etc. Ça veut dire qu'en gros, une femme qui arrive, qui a porté plainte, qui a obtenu gain de cause, qui arrive devant là où le juge et où l'avocat dépose le dossier en disant « Madame, monsieur, voilà, il y a un dossier au tribunal correctionnel, il a été reconnu coupable, le juge va lui dire clairement les yeux dans les yeux, on n'est pas là pour juger de ça, ça c'est pas mon affaire, en gros je m'en moque ». Et c'est d'autant plus terrible que la plupart des hommes qui crient haut et fort le fait que c'est injuste, qui veulent la garde des enfants, etc., comme le rappelait l'association Zéro Macho, eh ben, en fait ce sont des hommes agresseurs. Et beaucoup obtiennent gain de cause. Ça veut dire qu'un homme qui a été condamné en tribunal correctionnel, il peut continuer à voir ses enfants un week-end sur deux, la moitié des vacances, le mercredi, etc.
C'est terrible. C'est insensé.
C'est la réalité.
Et c'est pas dénoncé par...
C'est dénoncé, bien entendu.
J'espère, mais pourquoi c'est toujours...
Moi, je parlais d'Edouard Durand.
Oui, oui, oui. Donc, il y a des personnes qui le dénoncent, mais c'est toujours comme ça.
Bien sûr, il y a quand même quelques juges ou magistrats ou psychiatres courageux qui dénoncent ce système.
Mais en tout cas, il reste comme ça, ce système quoi.
Et ça veut dire que le pire, je ne citerai pas son prénom et je ne le cite pas non plus dans mon livre, mais le pire, c'est ce qui est arrivé quand même à une de mes amies très chères. C'est une femme qui a été battue, qui a été victime de violences pendant des années, devant ses enfants, etc., qui a été quasiment torturée, brûlée, etc., et qui en fait perd la garde de ses enfants. Et c'est ça, le système
judiciaire... Elle n'est pas la seule, parce que j'en entends plein d'autres.
Mais bien entendu. Ouais. Et le système judiciaire en France, il en est là, quoi. Il y a un fonctionnement qui est dramatique, c'est-à-dire que pour la plupart des juges, des assistants sociaux, des médiateurs à tout va, etc., un homme violent peut être un bon père. Ils ne font aucun lien entre les deux. Or, un homme violent ne peut pas être un bon père. C'est juste pour plein de raisons. D'abord, un homme violent, il est violent avec les enfants, il est violent avec la mère. Ensuite, quand bien même il ne serait violent qu'avec la mère, il est quand même violent avec la mère, qui est la figure maternelle féminine qu'ont les enfants toute leur vie, devant eux. Et moi, je vais quand même citer une phrase de Luc Frémiot. Arrêtons d'affirmer qu'on peut être un bon père et un mari violent. C'est juste monstrueux de dire de telles choses, sachant que les enfants sont à la fois des témoins, des otages et des victimes.
Oui. C'est du bon sens. Enfin, ce qu'il dit me paraît évident. Mais cette phrase, tu l'as mis au début de ton livre, et c'est vrai que
tout à fait.
C'est très, très
important.
Alors,
il y a quand même un récent contre-exemple qui a fait jurisprudence. Alors, je n'ai plus les dates en tête. Je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, donc vous m'en excuserez. Mais il y a au tribunal, il me semble que c'est à Versailles, il y a eu très récemment un dossier qui a fait jurisprudence, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est comme un exemple en quelque sorte, où là, pour la première fois, en fait, effectivement, on a bien noté que non, ça ne pouvait pas être le cas. C'est-à-dire que cet homme était un homme violent. Il ne pouvait pas être, être
père. Je me souviens ça de fait, ça, de ce sûr, dossier-là, oui.
Et ça a fait jurisprudence, y dire quand même où on en est, quoi. Ensuite, il y a également un état de la justice française qui est dramatique. Patrick Jean avait fait un calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est intéressant sur le fait. C'est que si aujourd'hui, toutes les victimes qui portaient plainte pour violences intrafamiliales, elles et contre elles et leurs enfants, étaient accueillies, écoutées, entendues, leurs paroles non remises en question, si tout de suite il y avait des choses concrètes qui étaient efficaces, qui étaient mises en place pour les protéger, on assisterait à, on devrait en tout cas construire 20 fois plus de prison, de places de prison. Donc autant vous dire, comme il le dit avec de l'humour, qu'il y aurait une longue file d'attente devant les commissariats. Mais on en est là, quoi. Il y a une délégation également. Alors c'est vrai que la justice, comme le système éducatif, sont les parents pauvres de la République française. Et du coup, alors ça n'explique pas tout, bien entendu, hein. Du coup, il y a une délégation du travail des juges, des magistrats, aux médiatrices, médiateurs, aux expertes et experts judiciaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un dossier qui arrive pour violence intrafamiliale, il sera, alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas, puisque maintenant c'est interdit, il ne devrait plus y avoir de médiation depuis quelques années dans ces dossiers-là, eh ben, en fait, on va les traiter comme un dossier banal. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ok, il y a un dossier de divorce qui arrive sur mon bureau, eh ben, médiation civile. Si c'est un dépôt de plainte en correctionnel, médiation pénale et expertise judiciaire. Et l'expertise judiciaire, c'est quand même assez terrible parce qu'elle repose sur un principe qui s'appelle, je pense que tu en as déjà entendu parler, le syndrome d'aliénation parentale.
Oui, j'en ai malheureusement entendu parler, j'en ai parlé aussi dans l'émission. Mais vas-y, voilà. Explique
donc,
de quoi il s'agit.
Le syndrome d'aliénation parentale, le SAP, c'est la base même des expertises psychiatriques qui sont quand même à la charge en plus des personnes qui vont faire l'expertise. C'est quand même assez terrible, qui dure en moyenne 10 minutes, on va dire grand maximum. Et donc, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, un expert, il va savoir en gros ce que tu as dans la tête, quoi. Et la base même de ces expertises repose sur un principe, en fait, un syndrome qui n'est absolument pas reconnu par l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé, ni par aucune instance médicale, en fait, qui n'a non seulement aucune reconnaissance officielle médicale, mais qui en plus crée des dégâts terribles, en fait, dessert complètement. Quoi. Gartner, puisque c'est lui qui a inventé ce fameux syndrome, il prétend, en référence à ses seules convictions, que lorsque l'enfant rejette un parent, plus souvent le père, c'est que dans 90% des cas, c'est la mère qui l'aura aliéné. C'est-à-dire que l'enfant, d'après lui, il ne t'exprimerait pas d'après ce qu'il ressent, mais selon ce que l'adulte aliénant lui impose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
la mère, bien sûr,
à partir du moment où une femme porte plainte, en fait, ben pour lui, selon lui, forcément, c'est qu'en fait, il est sous l'emprise. Il est sous l'emprise de la mère, quoi. Donc, l'enfant est sous l'emprise de la mère. Et c'est-à-dire qu'en fait, on rejette la culpabilité sur la mère, quoi, en fait. Et ça fait quand même des dégâts terribles parce qu'il y a quand même bon nombre de femmes qui se sont retrouvées à être soi-disant aliénantes, donc avec ce SAP. Alors qu'en fait, elles venaient pour protéger leurs enfants. Et dans le livre, je donne plusieurs exemples que donnent Hélène Romano, Patrick Jean, mais d'autres également, où il y a quand même tout un tas d'enfants qui ont été victimes de violences. Alors, on dit ça direct et indirect, mais on s'aperçoit qu'en fait, le traumatisme au niveau psychique est le même, en quelque sorte, sur les enfants. Il y a tout un tas d'enfants qui ont été victimes de leur père, de leur bourreau, et qui... Donc, grâce à leur mère, en fait, leur mère espère de la justice une aide, une attente, va porter plainte, se retrouve devant un expert et finalement... On dit qu'elle, c'est l'aliénante. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, en fait, l'enfant va retourner chez le père
affreux. Ouais.
Et va devoir, d'ailleurs, il y a quelques temps de ça, il y avait une émission là-dessus, il me semble, sur Radio Galère, sur une femme justement qui expliquait ça, que la femme, bah, justement, elle va devoir supporter l'idée que son enfant va pouvoir, en retournant chez le père, au mieux subir des maltraitances psychologiques, scolaires, médicales, etc. Au pire, être frappée, voire victime d'inceste et de viol. Et ça continue, c'est un véritable tabou.
C'est un véritable tabou. C'est abominable, c'est juste insupportable.
L'inceste en France, alors je n'ai pas regardé en entier le documentaire Le Carl Zéro.
Ah oui, voilà. Le 1 sur 5,
je n'ai pas
un documentaire sur l'inceste et les violences.
J'ai vu effectivement quelques bribes et des critiques notamment, mais malheureusement, ce documentaire n'est que le reflet de la triste réalité, quoi.
Mais ce SAP a été pourtant dénoncé, il continue à être utilisé. Moi, je pense qu'il y a un lobbying quelque part de personnes qui continuent à vouloir utiliser, à l'enseigner, etc. Alors que normalement, il devrait pas. Enfin, voilà. Donc.
Alors, il y a quand même un espoir. Moi, j'aime bien garder espoir.
Oui, ben moi aussi.
Il y a quand même espoir, c'est que récemment, depuis un an et demi à peu près, il y a dans une école de magistrature en France, il y a une formation maintenant qui intervient dans le cursus obligatoire sur les violences intrafamiliales. Mmh. Parce qu'en fait, il faut savoir que ni les avocats, ni les juges, ni les magistrats, ni les gendarmes, enfin personne n'a de formation sur ces violences.
J'espère cette bonne nouvelle, mais c'est, il me semble dans ton livre que tu disais que ce SAP est utilisé et enseigné, etc.
Tout à fait.
Aussi dans c'est ça.
Tout à fait. Donc, ensuite, au niveau de la justice, la plupart du temps, il y a des divorces à l'amiable. C'est-à-dire qu'en fait, ça aussi, ça concourt à minimiser les violences. C'est-à-dire que la femme, d'abord, divorcer, ça coûte très cher. Les violences pour faute, ça dure des années et des années. Donc, au bout du temps, financièrement et puis psychologiquement, c'est compliqué. Et souvent, en fait, il est demandé de faire des divorces à l'amiable. Donc, c'est assez terrible. On va parler également de la médiation civile, donc au civil pour le juge d'enfants ou le juge aux affaires familiales, surtout le juge aux affaires familiales, et médiation également pénale. Donc ça, c'est terrible, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant une médiatrice ou un médiateur qui va nous dire en gros, ok, on oublie ce qui s'est passé, madame, mettez un peu d'eau dans votre vin et monsieur, tapez un peu moins fort. En gros, c'est à peu près ça, on va trouver un arrangement pour les enfants. Mais il n'y a pas d'arrangement à trouver. La violence, elle est unilatérale. Quand il y a une dispute, un conflit entre deux personnes, plus ou moins de respect, parce que quand on est énervé, le respect il diminue un peu, on est d'accord. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'emprise, où il n'y a pas de manipulation consciente, où il n'y a pas en tout cas cette violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, la violence, elle est unilatérale. C'est l'agresseur qui est violent envers ses victimes. Point barre. Et ça ne devrait même pas donner lieu à des médiations. Ensuite, je termine juste là-dessus, c'est que les enfants victimes qui sont obligés à revoir leurs agresseurs, le gros problème de ça également, et Hélène Romano en parle beaucoup dans le livre, c'est que ça installe le doute, la confusion, le déni chez les enfants victimes, et ce de manière très durable.
Bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment... Donc, on va faire une autre petite pause musicale avec, je la cherche, voilà, No More Fight Left in Me de Imani, que j'aime beaucoup, que tu as choisi, mais qui fait aussi partie de mes choix.
Merci.
I gave up everything. I raised your children. I swimmed against the stream. I walked every mountain. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I
I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. I am misunderstood, and it makes me lonely. I am nobody's fool, just know that you need me. What is it that you want from me? Is it my soul, is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me.
Voilà, donc avec Cécile, on chantait dans notre tête la chanson d'Imani pour nous ressourcer. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. Et du coup, voilà, j'ai arrêté la chanson. Bon, elle était finie, mais parce que il faut garder du temps pour parler des solutions. Et voilà, donc je te laisse la parole.
Alors déjà, avant de parler justement des solutions possibles, je voulais rappeler quand même un petit chiffre sans vouloir trop inonder de chiffres parce qu'après on ne les retient plus. Il y a une société qui s'appelle Psytel, qui est une société civile, donc qui est une coopérative d'experts indépendants qui travaille dans le système d'information de santé dans le domaine de prévention des traumatismes et qui avait chiffré en fait le nombre de, parce que ça j'en ai pas parlé, je voulais en parler, de suicides, ce qu'on appelle des suicides forcés, de femmes victimes de violences. La société a estimé à 224 le nombre de suicides de femmes victimes de violences au sein du couple sur la seule année 2018. Alors, qu'est-ce qu'on entend par suicide forcé ? En gros, c'est la femme subit tellement de violences au niveau psychologique, verbal, physique, sexuel, etc. Elle a tellement honte d'en parler, elle est tellement reclue dans cette violence et malheureusement, elle ne sait que trop que porter plainte va être un long combat, un parcours de la combattante, qu'en fait, faille plus faille plus faille plus faille, beaucoup se suicident. Ça veut dire qu'en fait, en 2018, si on rajoute tous ces chiffres un à un, ça fait quand même 455 personnes qui sont décédées des suites des violences au sein du couple. C'est-à-dire, en gros, plus d'une par jour. C'est quand même énorme. On parle également du coût financier, parce qu'on va nous dire, oui, mais traiter les violences intrafamiliales, c'est financièrement, c'est compliqué. Alors, le coût financier, quand même, de toutes ces violences, il a été chiffré par cette société à 3,6 milliards d'euros en hypothèse basse en 2012. Ça veut dire, en gros, les coûts, il a pris en compte les coûts médicaux, donc les passages aux urgences, les hospitalisations, les consultations, la surconsommation médicamenteuse, les coûts d'accueil, les coûts d'accompagnement juridique, social, prévention, prise en charge des graves agresseurs, etc. Les coûts de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, du système judiciaire, pénal, les coûts d'hébergement, de logement d'urgence. Et puis j'ai une amie, travailleuse sociale à Marseille, Christine Godard, qui connaît très très bien le sujet, qui me faisait également remarquer qu'il fallait ajouter à tous ces coûts financiers ceux qui sont dus aux dépressions des femmes et des enfants victimes des violences intrafamiliales. Donc c'est quand même assez terrible. Alors, les violences intrafamiliales, à la base, effectivement, il y a une société inégalitaire entre les femmes et les enfants, un système patriarcal, un masculinisme. Donc on pourrait dire, tout simplement, c'est un peu facile ce que je vais dire, mais sur le long terme en tout cas, c'est déjà changer de système. C'est-à-dire que déjà, si on éduquait autrement, pas tellement... Au niveau, pas qu'au niveau familial, mais au niveau sociétal, les femmes et les hommes, être plus respectueux les uns envers les autres, déjà, ça se passerait différemment. C'est-à-dire qu'une femme à qui on va dire « Non, mais tu vas quand même pas aller au collège, au lycée, en boîte de nuit, ou tu vas quand même pas marcher dans la rue comme ça, en étant habillée aussi courte, faudra pas t'étonner après si tu te fais sauter dessus », mais c'est juste abominable. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de dire, en gros, qu'un homme, il peut pas, il est toujours midi à la pendule, quoi. Voilà. Donc non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apprendre aussi bien éduquer les hommes au respect des femmes que les femmes à vivre plus largement comme elles le souhaitent. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, parce que quand on sort seul au cinéma à 10h, 11h du soir, suivant certains endroits, c'est quand même il y a quand même une peur qui s'installe. Mais il y a quand même un problème déjà au niveau sociétal qui est énorme, cette inégalité. Ensuite, il faudrait qu'il y ait une volonté politique de vouloir changer vraiment les choses. Je donnais des chiffres tout à l'heure qui sont monstrueux, mais elle est où la volonté politique de changer ? Il y a quand même un exemple qui est donné dans le livre par Patrick Jean, qui est édifiant, c'est celui du Canada. C'est-à-dire qu'au Canada, quand il y a du bruit dans la pièce d'à côté ou dans la maison d'à côté, dans l'appartement d'à côté, et qu'on a de forts doutes sur le fait que ce soit des violences, une potentialité que ce soit des violences, il suffit de faire le numéro de la police et la police débarque. Et si quelqu'un n'ouvre pas, il défonce la porte. En France, la première chose qu'ils vont vous dire au téléphone, c'est « Est-ce qu'il y a des blessés ? Est-ce que vous en êtes sûr ?» On tape, mais on va peut-être pas rentrer. Ok, mais si on rentre, oui, mais la femme, elle dit « Bah oui, 3 fois sur 4, elle va dire non, non. » Ou même 9 fois sur 10, « Bah non, non, tout va bien. »
Et ils vont repartir.
Ils vont partir. Donc, c'est ça qui est assez terrible. Ensuite, il y a faire confiance aux associations de terrain. Il y a des formidables associations d'aide aux victimes. Alors, le livre, quand même, l'intégralité des bénéfices de mon livre est reversé à 2 associations, Oser le féminisme Arles et Solidarité Femmes 13. Et ces 2 associations, alors pas juste locales, mais ces 2 associations au niveau national, comme tant d'autres associations d'aide aux victimes, font un travail de fourmi, un travail de terrain, et elles dénoncent depuis des années, parce qu'elles connaissent bien le terrain, ces personnes, depuis des années, les mécanismes pervers de l'agresseur, le déni de la justice, et demandent de l'aide, justement, et en fait, on ne leur fait pas confiance. Non, non, mais c'est surtout justice.
Non, mais en tout cas, non, d'un coup, je pensais aussi aux moyens que l'on ne donne pas à ces associations,
sûr,
en réalité, qui ce sont toutes des femmes bénévoles, quoi.
Bien sûr. Donc, alors, non, pas forcément. Fin... Non, non, il y a des salariés, mais surtout qu'elles n'ont pas forcément d'aide de l'État. Hein, ce sont des dons privés. Et ces associations, c'est vraiment une mine d'or qui n'est absolument pas exploitée. En Suisse, il y a aussi croire les victimes. Et non pas systématiquement mettre en doute leurs paroles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme vient porter plainte, on ne doit pas lui dire « Ah, mais vous en êtes sûre, mais vous ne l'avez pas un peu cherché, mais qu'est-ce que vous portiez, mais comment ça s'est vraiment passé ?» Puis il faut savoir comment ça se passe aussi quand on vient porter plainte pour un viol. C'est terrible, parce que c'est pas...
Bah, on l'a vu, l'impunité est la plus grande pour les violences sexuelles, et du coup, voilà, c'est logique, donc en fait, c'est terrible, tout est terrible,
voilà.
Quoi.
C'est quand même assez horrible, quoi.
Oui.
Et puis comment arriver à prouver que c'était un viol et non pas une relation consentie, enfin voilà. Ensuite, il y a également, et ça devrait être la priorité des priorités du gouvernement, c'est les formations obligatoires. Alors je parle de toutes celles et ceux qui sont concernés. Il y a les personnels de secours, les pompiers, les gendarmes. Marie-Lou Diamantara rappelle quand même dans son livre que les pompiers, les gendarmes font quand même partie, outre le fait qu'il n'y ait pas de formation à ce niveau-là, sur les violences intrafamiliales, font quand même partie des métiers où il y a une grande tolérance, où il y a une grande tolérance par rapport aux violences.
Ça me fait penser à l'affaire Julie.
Ben, bien sûr.
Bien
sûr, qui a été
violée par 20 pompiers, et seulement 3 sont mis en examen. Il n'y a eu aucune justice de rendu,
pour rien du tout.
Ouais. Et donc, il y a vraiment un problème, en fait.
Bien sûr. Il y a donc cette formation obligatoire pour les pompiers, les gendarmes, les policiers, mais également le personnel médical. C'est-à-dire que le personnel médical, que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le privé, etc., il devrait recevoir une formation obligatoire. Il faut savoir qu'en France, il y a bon nombre de médecins qui arrivent quand même à trouver le courage en disant bah oui, on va effectivement faire une lettre disant, une attestation disant qu'effectivement vous, il y a de fortes présomptions pour que vous subissiez des violences, et ça peut être fait aussi bien pour du verbal que du physique, c'est-à-dire des traces qui se voient vraiment, donc du psychologique ou du physique, et ça donne lieu ensuite, c'est plus facile pour porter plainte nécessairement d'avoir une attestation médicale, parce qu'autrement ça sera vraiment peine perdue, et de pouvoir avoir des ITT en fait, incapacité totale de travail. Et il faut savoir qu'en France, il y a bon nombre de médecins qui font ces attestations et qui se retrouvent mis de côté, quoi.
Carrément.
Mais voilà,
oui.
C'est ça qui est terrible. Et dans le livre, justement, j'en parle de ça. Il y a aussi le personnel enseignant. Je suis professeure des écoles en REP+, donc en zone, on va dire, plus difficile, mais peu importe. Dans tous les endroits, le personnel enseignant, que ce soit les enseignants, les directeurs, les psychologues, les médecins scolaires, toutes devraient avoir, on devrait passer obligatoirement par une formation. On a des enfants en face de nous. Je rappelle quand même un chiffre qui est assez terrible, c'est que dans les établissements scolaires français, on estime en moyenne que 2 enfants par classe sont victimes de viols, de tentatives de viols et d'agressions sexuelles, et que leur agresseur est dans la majorité des cas un proche, souvent leur propre père. Combien de victimes réussiront à parler, et parmi elles, combien seront entendues, crues, réellement protégées? On a la possibilité de faire des IP, des formations, des informations préoccupantes. Très bien, mais la plupart sont classées sans suite par une justice qui, aux méthodes désuètes, contre-productives. Ensuite, il y a le délai de prescription également, qui ajoute quand même une injustice à leur traumatisme. Ils sont devenus adultes, les enfants, lorsqu'ils trouvent la force d'accuser leur agresseur. Mais loin de tous. Et vous imaginez tout le traumatisme que ça a créé. Donc déjà, cette formation, le personnel éducatif, bien entendu, les psychiatres, les psychologues, les magistrats également. ensuite arrêter ce SAP qui a été décrié, décrié, même pas reconnu par l'OMS, parce que c'est une théorie, excusez-moi du terme, fumeuse, dangereuse, et qui dessert les victimes et qui renforce encore plus le pouvoir des agresseurs. Je parlais de
tout à fait.
Double injustice.
Et carrément complice des agresseurs.
Ensuite, il y a quand même un gros problème également sur la prise en charge immédiate des victimes. Il est intolérable qu'on dise d'abord qu'une victime, elle ne puisse pas aller porter plainte parce que en fait, elle a peur tout simplement du regard qu'on peut porter sur elle. C'est terrible d'aller porter plainte. En plus, on porte plainte contre quelqu'un qu'on a choisi, consciemment ou inconsciemment, peu importe, avec qui on a eu un espoir d'eux. Donc déjà, la prise en charge des victimes au niveau des plaintes, mais également ensuite. C'est-à-dire qu'il est intolérable en France que les victimes, on leur demande de quitter le domicile si elles ne le veulent pas et si elles ne le souhaitent pas. Il est intolérable qu'on dise en fait en France qu'il n'y a pas de numéro grand danger. Il faut juste voir l'exemple de l'Espagne. Le bracelet électronique et le numéro de danger, l'appel, le portable. Donc, il y a des exemples comme ça qui marchent ailleurs. Mmh. Et le coût financier, à la base, il est important. Mais là, on parle de vie. Et ne Bien serait-ce sûr. Une vie, c'est une vie. Mais là, c'est plus une vie. C'est des millions de vies. Mmh. Il y a 2 millions de femmes chaque année.
Mais les associations
France.
Féministes demandent 1 milliard, c'est
mais
ça
bien sûr.
Et il n'a jamais
mais
été
non.
donné. Hein.
Mais non. Là, on parle de millions, de milliards, très bien. Mais laissons de côté un peu ces chiffres, parce que de toute façon, ces chiffres, on va les retrouver dans actuellement, ce qui n'est pas fait de toute façon.
Oui, dans les coûts que ça
Mais
coûte.
Bien sûr, dans tous les coûts. Oui. Mais là, on parle de vie. Et je ne parle pas d'une vie, de 10 vies. Bien Je sûr. Parle de 2 millions de femmes chaque année en France qui sont victimes de violences et des millions également d'enfants qui, depuis qu'ils sont bébés, parce que ça, on sait, on n'en parle pas, le tabou de l'inceste chez les bébés. Les bébés, les enfants, etc., les adolescents. Comment ils vont se construire? Comment vont se construire ces enfants qui deviendront adolescents, adultes, etc.? Donc, oui, il y a un coût. Mais ce coup, il est nécessaire.
Bien
quoi.
Sûr.
Il est nécessaire. Ensuite, il devrait y avoir une fin de l'impunité pour les agresseurs. C'est-à-dire qu'un agresseur qui est reconnu coupable, il devrait avoir une obligation de soins. Alors, je sais que les féministes n'aiment pas cette notion de soins. Alors, j'entends...
Moi, ça me fait réagir tout de suite. C'est vrai que je pense d'abord
malade.
Les soins pour les victimes. Non, par contre, non, ce qui me fait réagir, c'est je pense que les soins devraient d'abord aller aux femmes victimes.
Alors, les deux, bien entendu. Ouais. Je parlais des victimes tout à l'heure, mais là, je parle des agresseurs.
Oui, j'ai bien compris.
Par rapport aux soins. C'est-à-dire qu'un homme, depuis la conférence de Pékin, en fait, on s'est aperçu, il y a pas mal d'années de ça, on s'est aperçu qu'en fait, contrairement à l'idée reçue par beaucoup de personnes, par la totalité de personnes, un homme violent n'est pas un homme qui est bourré, n'est pas un homme qui est malade psychiatriquement, n'est pas un homme qui est sous l'emprise de l'alcool, etc.
Ah non, puisque c'est un systémique, donc voilà.
Voilà,
oui, c'est bien de le préciser, oui, tout à fait.
Oui, bien sûr.
Oui.
Donc, non, pas du tout. Oui. La plupart des hommes violents ne sont pas malades psychiatriques et pas emprises à la drogue, à l'alcool, etc. Ça peut avoir un effet d'augmentation, certes, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Or, le problème, c'est que c'est pour ça que je parlais de soins, en fait. Soins dans le sens d'obligation de suivi thérapeutique, en quelque sorte, plutôt. Mm-hmm. Il devrait y avoir, à partir du moment où il y a une condamnation, il y a une plainte, une condamnation et un suivi obligatoire pour ces hommes-là. Parce que c'est bien beau quand quelques-uns d'entre eux sont reconnus coupables, quelques-uns très rares d'entre eux arrivent en prison. Vous imaginez pour arriver en prison tout ce qu'ils ont dû faire subir, déjà ou le nombre de preuves qu'il a fallu avoir, ils vont sortir au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans.
La peine
on peut donner tout un tas
minimal et ils vont sortir.
Très connus.
Oui. Donne des exemples.
Mais c'est pas. Bah, je pense qu'au chanteur, tout simplement, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Le gros problème, c'est que s'ils n'ont pas eu de soins, ils vont sortir pire. Pire, quoi, parce que c'est pas un hôtel 4 étoiles, une prison, quoi. Donc, il est là aussi. Ensuite, il y a une aide, puisque tu en parlais, de manière qui devrait être pérenne pour les victimes. Une victime, elle a besoin d'aide. Seule, elle ne s'en sortira pas. Moi, si je m'en suis sortie, c'est parce que j'ai eu la chance, le courage peut-être aussi, mais la chance qui est des mains tendues. Alors, il y a eu les associations, bien entendu. Il y a eu notamment Valérie Marseille, elle fait partie des personnes qui m'ont aidée, mais pas que. Il y a aussi des psychologues qui ont été bienveillantes. Il y a tout un tas de thérapies qui marchent très bien. Le MDR, le fonctionnement des mouvements oculaires. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, etc. Donc, il y a tout un tas de techniques qui peuvent aider. Qui peuvent aider. Et il est anormal, en fait, en France, qu'on ne puisse pas aider de manière pérenne les victimes à se reconstruire. Donc, au niveau psychologique, mais également au niveau du logement, au niveau financier, etc. Ensuite, il y a quand même quelque chose, et je voudrais terminer là-dessus, c'est et la société dans tout ça. C'est-à-dire quand on dit « mais tout le monde savait », c'est-à-dire qu'à un moment donné, la non-assistance à personne en danger, elle devrait être systématique. Une femme qui se fait battre, qu'elle soit dans la rue, ta sœur, peu importe, en fait, tu la défends. Une femme qui est violentée psychologiquement, physiquement, etc., il faut demander de l'aide. Il y a une nécessité de revoir aussi ça par rapport à ça. C'est pas du domaine privé, donc on s'en occupe pas. Et puis je terminerai sur ces mots d'une militante féministe et avocate qui est décédée en 2020, Gisèle Halimi,
oui.
À qui on lui doit beaucoup, notamment oui. une loi sur le viol, la pénalisation du viol, qui s'est racontée donc à une journaliste dans une farouche liberté. Et je terminerai là-dessus sur ces mots positifs. Elle y encourage les féministes à lutter sans relâche. Le combat est une dynamique. Si on arrête, on dégringole. Si on arrête, on est foutu. Car les droits des femmes sont toujours en danger. Soyez donc sur le qui-vive, attentive, combative. Ne laissez pas passer un geste, un mot, une situation qui attente à votre dignité, la vôtre et celle de toutes les femmes. Voilà.
Eh bien, je te remercie. Beaucoup, ça a
Merci
été
à toi, Nadia.
Très bien pour nous deux et pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Et puis cette émission sera ensuite sur le site des podcasts, parce que voilà, je précise à ceux qui écoutent que on peut réécouter l'émission pas seulement sur le site de Radio Galère, mais aussi sur les podcasts, sur toutes les plateformes.
Je répète
oui.
les références.
Oui, tout à fait. Vas-y.
De l'essai féministe.
Aussi. Ouais.
Arrête ou je t'en colle une. Cécile Fromageau-Wasserman et préface de Patrick Jean. Vous pouvez le trouver sur Facebook,
ouais.
soit à ma page personnelle, Cécile Bien Fromageau-Wasserman, sûr. Soit à mon profil également.
Et Merci je mettrai beaucoup. Aussi ça, les références du livre, dans les références du podcast.
Et les bénéfices.
Voilà, les bénéfices. Voilà. Et on va se quitter. Et j'avais oublié de dire, je voulais dire au début de l'émission qu'aujourd'hui, au Théâtre Tourski, il y a avec l'association GAMS qui lutte contre l'excision. Donc, une journée contre l'excision. Donc, si vous êtes là, vous avez l'occasion, eh bien, vous pouvez faire quelque chose et aller au Théâtre Tourski pour lutter contre l'excision et soutenir ces associations. Le GAMS avec Nakissi Savané à Marseille. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous dis merci. Et voilà, je vais remettre le générique de l'émission. Et puis, voilà.
Merci.
À la semaine prochaine pour les auditrices et auditeurs.